VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 23 novembre 2017. Robert Mugabe reçoit l'immunité tandis qu'Emerson Mnangagwa s'apprête à prendre le pouvoir au Zimbabwe. Un village incendié à Mobaye en Centrafrique, tous les habitants ont fui en RDC. L'ex-maire de Moundou au Tchad, en détention depuis 4 mois, a été libéré pour non-respect de la procédure. Au Cameroun, les députés SDF ont perturbé une séance plénière pour parler de la crise anglophone. Le président soudanais Omar el-Béchir a rencontré Vladimir Poutine à Sotchi pour un soutien militaire. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe et sa famille peuvent rester dans le pays et ne seront pas poursuivis. Assurance donnée par un porte-parole de la ZANU-PF, Raissa Girondin nous en dit plus.
Une lumière au bout du tunnel pour l'ex-président zimbabwéen. Robert Mugabe s'est vu garantir l'immunité lui permettant de rester dans le pays. Le plus vieux président en exercice de la planète a quitté sa fonction mardi sous la pression de l'armée et de son parti. Une démission historique mettant fin à 37 ans de règne. L'intraitable Mugabe a négocié durant une semaine son départ. Dès le début du processus de transition assisté par l'armée, tout en étant en résidence surveillée, c'est une immunité finalement accordée à celui qui souhaitait la garantie de la sécurité de sa famille. Il souhaitait surtout finir ses jours sur sa terre natale. Robert Mugabe laisse derrière lui une économie bouleversée par ses réformes. Son ancien bras droit, Emerson Mnangagwa, qui sera investi chef de l'État par intérim vendredi, a su emmener le pays dans une nouvelle ère. Le début d'une nouvelle démocratie.
Plus de 500 victimes de traite des êtres humains, dont près de la moitié sont des mineurs, ont été secourues et 40 trafiquants présumés ont été arrêtés lors d'une vaste opération de police dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous apprend Interpol ce jeudi, Bagassi Koura.
Selon la police des polices, l'opération Épervier menée simultanément au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal entre le 6 et le 10 novembre a permis l'arrestation de 40 trafiquants présumés qui seront poursuivis pour, je cite, « traite d'êtres humains, travail forcé et exploitation d'enfants ». Ils sont accusés d'avoir forcé les victimes à s'adonner à des activités allant de la mendicité à la prostitution, explique Interpol, sans préciser si la majorité était destinée à rester sur le sol africain ou à partir en Europe. Ainsi, une Nigériane de 16 ans qui s'était vue promettre un travail au Mali pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille a été forcée à se prostituer par son parrain pour rembourser ses frais de voyage. L'opération Épervier a été conduite dans le cadre du projet Sahel, une initiative financée par le ministère allemand des Affaires étrangères contre les réseaux de crimes organisés impliqués dans la traite des êtres humains. Elle a été coordonnée au niveau régional par des officiers d'Interpol à travers toute l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du siège de l'organisation à Lyon, en France.
Tchad, arrêté le 13 juillet pour détournement et usage de biens publics, l'ex-maire de Moundou, Laoukane Kourayou Médard, et ses deux co-accusés ont été libérés pour non-respect de la procédure. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Le juge a ordonné la mise en liberté d'office de Laoukane Médard pour détention abusive. Arrivé troisième à la présidentielle d'avril 2016, Médard a été arrêté mi-juillet pour malversation financière. Un mois avant son arrestation, il a été démis de ses fonctions de maire par le conseil municipal de Moundou. L'opposant était soupçonné d'avoir détourné 27 millions de francs CFA à la suite d'un contrôle administratif. Fin septembre, un rapport d'audit demandé par le juge d'instruction a révélé que M. Médard n'avait pas détourné un seul centime dans le cadre de ses fonctions de maire. Dans ce rapport, sur les 45 employés de la mairie cités, seul Laoukane Médard n'aurait rien détourné. Le document fait état de plus de 200 millions de francs CFA manquant à la mairie de Moundou.
Au Cameroun, la séance plénière mouvementée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés du SDF ont exigé un examen d'urgence sur la crise anglophone. Le député Joseph Banadzem a monopolisé la parole, empêchant l'examen des projets de loi du jour. Après une première interruption, les députés du SDF ont entonné un chant disant « Paul Biya, le pays va mal ». Les projets de loi mis en examen ce jour ont été adoptés dans la cacophonie générale et la séance du jour a été suspendue. Une entreprise chinoise de négoce de métaux a déclaré avoir ouvert une enquête pour savoir si des enfants travaillent dans des mines congolaises qui la fournissent en cobalt, un composant crucial des smartphones et voitures électriques. Yantai Cash, un exportateur de cobalt, a indiqué vérifier actuellement sa chaîne d'approvisionnement à la demande de la Bourse des métaux de Londres qui fixe les prix du marché. Les arrivées de migrants en Europe via la Libye ont connu une forte baisse au cours du troisième trimestre 2017, selon un rapport du HCR publié ce jeudi. Le nombre de personnes traversant la Méditerranée à partir de la Libye pour arriver en Italie a chuté entre juillet et septembre, passant de 11 500 à 6 300 pour un total de 21 700 sur l'ensemble du trimestre. L'opération européenne Sophia, chargée depuis 2015 de lutter contre le trafic d'êtres humains en Méditerranée, a permis de sauver des milliers de vies et de former des dizaines de gardes-côtes libyens, a annoncé son commandant Enrico Crendelino. Nous avons arrêté 119 passeurs présumés, détruit des embarcations, entraîné 200 gardes-côtes et porté secours à près de 42 000 personnes en mer, a déclaré l'amiral italien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Omar El-Béchir demande la protection de Poutine contre les actes agressifs des États-Unis. Une requête formulée ce jeudi par le président soudanais lors d'un entretien à Sochi avec son homologue russe, Blanche Sanou.
Sous le coup des mandats d'arrêt international, Omar El-Béchir s'est rendu pour la première fois en Russie, peu après la levée par le gouvernement du président Donald Trump de l'embargo américain. Il a précisé que son pays a besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. Il a aussi formulé son souhait de renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de rééquiper ses forces armées. Dans ses déclarations, Omar El-Béchir a remercié Vladimir Poutine pour la position qu'il prend dans les affaires internationales. Si la Russie n'était pas intervenue dans la situation en Syrie, ce pays aurait été perdu, a-t-il par ailleurs estimé. Le président soudanais est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Malgré la levée de l'embargo après 20 ans, les États-Unis ont en revanche maintenu ce pays sur leur liste des États soutenant le terrorisme.
Le sort du président syrien Bachar al-Assad pendant une éventuelle phase de transition en Syrie devrait être décidé au cours de négociations attendues entre le régime et l'opposition, a estimé ce jeudi le parti au pouvoir en Turquie. Avec la Russie et l'Iran, nous cherchons une solution. Si congrès il y a, l'interlocuteur pour Assad sera l'opposition, a déclaré Mahir Ounal, porte-parole de l'AKP, au lendemain d'un sommet sur la Syrie en Russie. La Birmanie et le Bangladesh ont signé un accord sur le retour dans les 2 mois de réfugiés passés au Bangladesh, où 620 000 Rohingyas ont afflué depuis fin août. Après des mois de pourparlers et une intense pression diplomatique internationale, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le ministre bangladais des Affaires étrangères Mahmoud Ali ont finalement conclu un accord dans la capitale birmane sur le retour des personnes déplacées de l'État Rakhine, épicentre des troubles. Un groupe de travail doit être mis en place dans les 3 semaines pour décider des modalités de rapatriement. La Chine et Djibouti ont élevé le niveau de leurs relations diplomatiques, a indiqué Pékin, quelques mois après l'ouverture par l'armée chinoise d'une base militaire dans ce pays. L'annonce est intervenue à l'issue d'une rencontre entre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et son homologue Xi Jinping. La Chine a inauguré début août à Djibouti sa première base militaire à l'étranger. Selon Pékin, elle est destinée à soutenir les opérations de maintien de la paix de l'ONU, d'évacuation de ses ressortissants et d'escorte navale. L'armée chinoise a mené en septembre des exercices militaires dans ce pays est-africain. 6 pirates somaliens présumés ont été transférés aux Seychelles après leur arrestation pour les attaques d'un porte-conteneur et d'un navire de pêche au large du sud de la Somalie. Les suspects, âgés de 16 à 24 ans, sont arrivés ce jeudi à Victoria, a annoncé un responsable de prison seychellois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
Le milliardaire sud-africain Christo Yez redouble d'efforts pour réunir deux groupes de distribution, Stenoff et Shoprite, afin de poursuivre leur expansion en Afrique. Shoprite domine le secteur de l'épicerie. Star vend surtout des vêtements, des chaussures, des articles ménagers et des meubles. Avec un contrat de près de 27 millions d'euros, la Senelec, société d'électricité du Sénégal, a retenu le groupe français Vinci Énergie pour la réalisation de 8 centrales photovoltaïques sur 4 grandes régions du Sénégal, les îles du Saloum et la région de Thiès, à l'ouest du pays, ainsi que dans les régions de Tabakunda et de Kolda, à l'est. Le secteur des télécommunications est en pleine expansion en Côte d'Ivoire, selon le PDG d'Orange. Le groupe de télécommunications se prépare pour une installation d'ici 24 mois dans son nouveau siège social d'Abidjan. La pose de la première pierre a été effectuée mercredi par le Premier ministre Koulibaly pour un coût total d'investissement de 28 milliards de francs CFA. L'Ouganda mise sur le pétrole pour son développement. Dès 2020, le gouvernement espère qu'une manne de 2,4 milliards de dollars par an sortira des champs pétroliers. Dans l'attente de l'or noir, les activités économiques se développent de manière significative dans la région d'Oima, située à proximité de Puy. Investisseurs et communautés se préparent à l'arrivée de nouvelles activités et d'une nouvelle population de travailleurs.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors, Ligue Europa ce soir, Lyon y est presque.
Tout à fait Nathalie, l'Olympique lyonnais sera qualifié pour les 16e en cas de victoire ou de nul contre les Chypriotes de l'Apollon Limassol. Les Niçois, eux, accéderont au prochain tour en cas de succès contre Zulte Waregem. Pour l'OM, il faut gagner face à Konyan Sport et espérer que le Vitória Guimarães ne s'impose à Salzbourg. À noter aussi que l'AC Milan est en bonne voie, seule condition absolue pour les Milanais, battre Austria Vienne. De son côté, Arsenal, déjà qualifié, a de fortes chances de terminer à la première place de son groupe.
Luis Campos supervise la transition du club lillois.
Au lendemain de la mise à pied de l'entraîneur Marcelo Bielsa, Luis Campos, conseiller sportif du président Gérard Lopez, supervisera la période de transition assurée par un staff technique provisoire. El Loco paie les mauvais résultats de son équipe, 19e et avant-dernière de Ligue 1, après une ultime défaite cinglante lundi à Amiens, un autre mal classé 3-0. En 13 journées de championnat, la formation nordiste a concédé 7 défaites pour seulement 3 victoires et 3 matchs nuls.
Et Yacouba, le Sénégal pointe à la première place du classement FIFA africain.
Oui Nathalie, les Lions de la Teranga se sont hissés en tête du classement du mois de novembre devant la Tunisie, l'Égypte, la RD Congo et le Maroc qui complètent le top 5 Afrique. Les Sénégalais profitent de leur deuxième qualification pour la Coupe du Monde pour atteindre le 23e rang mondial, le meilleur classement de leur histoire. Au niveau mondial, justement, l'Allemagne reste première. Elle est suivie du Brésil, du Portugal, de l'Argentine et de la Belgique qui referme le top 5 mondial.
Et on termine par Super Sport qui compte sur son public pour renverser le tout-puissant Mazembe à la Coupe CAF.
Et oui, le club sud-africain a décidé de mener une campagne de séduction. Super Sport United prévoit une entrée gratuite au Lucas Moripo Stadium pour tous les supporters qui porteront un t-shirt bleu couleur du club local. Après la défaite 2-1 lors de la finale aller, une victoire d'1-0 face au TP Mazembe suffirait aux Sud-Africains pour monter sur le toit de l'Afrique.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter une édition spéciale en cette journée de Thanksgiving, célébrée chaque année ici aux États-Unis depuis 1789, le quatrième jeudi de novembre. C'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier américain, où l'on se réunit en famille ou entre amis pour partager le traditionnel repas de l'Action de Grâce. Pour savoir d'où vient exactement cette tradition, un petit retour dans l'histoire avec Eric Manirakidza.
La fête de Thanksgiving symbolise l'Action de Grâce, une occasion de remercier le bon Dieu pour des récoltes abondantes. Elle est fêtée pour la toute première fois en 1621. Une année auparavant, les premiers Européens débarquent sur le sol du Nouveau Monde. Ce sont des colons venus d'Angleterre. Ils fuient la persécution pour leurs pratiques séparatistes de la religion anglicane. Ils fondent la ville de Plymouth dans l'état du Massachusetts et s'installent. Le premier hiver décime la moitié du groupe de faim, de froid ou de maladie. Les survivants sont conscients que leurs chances de survie sont maigres. Ils décident de collaborer avec les autochtones, donc les Amérindiens. Les deux groupes s'apprivoisent mutuellement et signent un traité de paix. Les Amérindiens leur offrent à manger et leur transmettent leur savoir-faire pour s'acclimater à la région, à pêcher, chasser et démarrer leur plantation de maïs. La chance est avec eux et la première récolte est abondante. Le nouveau peuple d'Amérique invite les autochtones à se joindre à eux pour un repas de fête. C'est la première célébration de Thanksgiving aux États-Unis. Peu après la guerre d'indépendance, le premier président américain George Washington décrète le 3 octobre 1789 le premier jour d'Action de Grâce et le fixe au jeudi 26 novembre. Pendant plus de 30 ans, Thanksgiving est célébré à des jours différents. En pleine guerre de sécession, en 1863, le président Abraham Lincoln juge le moment approprié d'en faire une célébration nationale pour réunir tout le peuple américain autour d'une célébration officielle et commune à tous les foyers américains. Il fixe la date au quatrième jeudi de novembre. La tradition perdure encore. Elle est devenue le moment familial où la famille éparpillée dans tout le pays se retrouve pendant 4 jours consécutifs. C'est un chassé-croisé impressionnant d'Américains sur les routes et dans les aéroports. Cette année, plus de 50 millions d'Américains se sont déplacés. Le traditionnel repas de Thanksgiving est composé d'une dinde farcie servie avec une sauce aux herbes et de la purée de patates douces et d'une tarte à la citrouille en dessert. C'est également le mets le plus authentique du premier repas de Thanksgiving des colons de Plymouth. Hello, c'est Eric Manirakiza de VOA Afrique. Juste une invitation ce soir à 18h temps universel dans À votre avis. Emmerson Dambudzo Mnangagwa prend demain les rênes du Zimbabwe. La reconstruction de son économie sortie exsangue des 37 ans du règne de Robert Mugabe reste sa priorité. L'armée a accordé l'immunité à Mugabe et à sa femme Grace et leur a permis de rester au pays. Ils ne seront donc pas poursuivis par la justice. Pensez-vous que M. Mugabe et sa femme méritent-ils de l'immunité? Qu'attendez-vous du nouveau président? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001 202 205 26 33. Rendez-vous sur le www.voafrique.com.
Emboîtant le pas à ses prédécesseurs, le président américain Donald Trump a gracié sa première dinde à la Maison Blanche à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Sur cette tradition considérée comme étant un peu amusante, voici un reportage de Nicoletta Illich de La Voix de l'Amérique, relaté par Jacques Aristide.
L'origine du rituel est incertaine. Certains affirment que c'est la clémence du président Abraham Lincoln durant son mandat entre 1861 et 1865 en faveur d'une dinde qui a donné lieu à cette cérémonie du pardon. D'autres indiquent que c'est John F. Kennedy qui fut le premier locataire de la Maison Blanche à se montrer magnanime lorsqu'un volatile lui a été présenté en novembre 1963. D'autres encore maintiennent que ce n'est que depuis George Bush père en 1989 que les présidents ont pris l'habitude d'exercer leur droit de grâce sur une dinde. Edward Lengel est historien attaché à la White House Historical Association.
He had a son named Tad.
Abraham Lincoln avait un fils nommé Ted qui plaisantait avec lui à propos de sa dinde qui se promenait dans les isoloirs le jour du scrutin en 1864. Et Abraham Lincoln lui a demandé pourquoi elle était là. Est-ce que la dinde est là pour voter?
Mais Ted répondit que sa dinde ne pouvait pas voter parce qu'elle était trop jeune.
Par conséquent, Abraham Lincoln devait gracier cette dinde et lui éviter d'être tué pour être dégusté à l'occasion de Thanksgiving.
La Fédération nationale des éleveurs de dinde en offre une au président depuis l'époque de Harry Truman après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le 18 novembre 1963, John F. Kennedy, compatissant, déclara devant la dinde offerte par cette fédération « Nous laisserons celle-là grandir ». S'il n'y a aucun document officiel qui peut attester de la grâce présidentielle de Lincoln, celle de Kennedy est solidement documentée.
Il faut donc accepter que c'est bien JFK qui a commencé cette tradition, laquelle se poursuit à ce jour.
Mais le président Truman y est également pour quelque chose.
Il y a donc la cérémonie officielle de réception de la dinde à la Maison Blanche et je pense que c'est Harry Truman qui fut le premier à présider à cette cérémonie publique.
La légende veut qu'après une journée d'éprouvante exposition médiatique à Washington, l'heureux élu parte couler des jours heureux dans une ferme, loin des appétits humains et de l'agitation du monde. Quant au président, il achète généralement sa propre dinde pour l'incontournable repas de Thanksgiving à la Maison Blanche, comme c'est le cas dans pratiquement tous les foyers américains.
Pour l'occasion de Thanksgiving, Anastasie Tudiech s'est rendue avec Arsouma Compaoré et Blanche Sanou dans les cuisines du Sweet Home Café, un restaurant du Musée National de l'Histoire et de la Culture Afro-Américaine. Ils ont rencontré là-bas le chef Jérôme Grant.
Alors voilà, nous sommes ici au Sweet Home Café, le restaurant du Musée National de l'Histoire et de la Culture Afro-Américaine. Et nous avons la chance d'avoir pour guide le chef de ce café. Alors, chef, on commence par une petite idée.
Oui, oui.
Et puis nous allons cuisiner ensemble. Je serai chef d'un jour.
Absolument.
Yeah, et on y va.
Nous sommes ici dans la cuisine. De ce côté-ci, nous avons le coin de préparation des plats chauds. Là, c'est le plan de travail, depuis lequel nous préparons les feuilles de chou vert au gombo, entre autres ragoûts typiquement afro-américains. La cuisine est un espace extraordinaire pour raconter notre histoire à travers ces plats. Et en quantité, nous servons entre 1800 et 2000 personnes par jour.
Wow.
7 jours par semaine, 364 jours par an, nous fermons seulement le jour de Noël.
Donc vous ne prenez jamais de vacances?
Non, non, j'habite ici en fait. Après l'abolition de l'esclavage, de nombreux Africains se sont déplacés vers l'Ouest en quête de lendemains meilleurs. Beaucoup travaillaient dans des chariots bâchés qui transportaient de la nourriture, qu'ils vendaient aux cheminots. Et puis, il y avait aussi tous ces mélanges de cultures amérindiennes, hispaniques, asiatiques.
Que signifie Thanksgiving pour vous?
Pour moi, Thanksgiving, c'est une fête importante. Dans mon cas, moi qui travaille beaucoup, et je suis loin de ma famille le plus souvent. Thanksgiving, c'est l'un de ces rares moments de l'année où je peux me poser, prendre un repas avec les miens, passer du temps avec mon fils, profiter de ma mère, de mon père, de tous mes cousins que je ne vois pas souvent, et enfin, être moi-même. Je peux alors redevenir le gars à l'ancienne que j'ai toujours été, et qui mieux que votre famille pour vous rappeler qui vous êtes? Donc commençons le bouillon dans lequel nous allons faire cuire les feuilles. Mettons en deux le sucre et sel.
Sucre et sel.
J'y mets une pincée de piment rouge, juste pour vraiment ressortir la saveur du poivre.
Oui. Est-ce que je vais en ajouter?
Oui. Oui, ajoutons-en un de plus. Ok, est-ce que vous sentez le vinaigre et les autres arômes? Maintenant, préparons les macaronis au fromage. Nous avons nos macaronis, nous y ajoutons un peu de béchamel. Nous avons déjà fait cuire nos macaronis, on peut y mettre du fromage à volonté.
Oui.
Notre béchamel est déjà poivré, du poivre noir, vous voyez, pour apporter cette saveur. Super. Pour Thanksgiving, nous proposons aussi des ailes de dinde à l'étouffée, un plat typique du Sud. Nous avons braisé nos ailes de dinde lentement dans une sauce composée d'oignons, de poivrons et de céleri. Puis, on a ajouté beaucoup de vin blanc, de bouillon de poule et on a laissé mijoter 2 heures et demie.
L'odeur est...
Et on sent bien l'odeur herbacée apportée par le romarin.
Oui, le romarin.
Bon, une fois qu'elles sont cuites, au point de presque se détacher de l'os, on retire le bouillon et on le fait concentrer pour préparer la sauce à proprement parler.
Autre ingrédient très important, incontournable du menu, c'est le pain de maïs.
Le pain de maïs, oui. Nous en préparons beaucoup ici, plus de 500 par jour. Les nôtres sont préparés et cuits ici. La recette est simple, vous savez, de la semoule de maïs, de la farine, du sucre, des œufs et du lait, ainsi qu'une touche de miel, juste pour apporter une petite note douce.
Place au dessert. Le chef Jérôme est toujours avec nous. Et nous voici face à la fameuse tarte à la patate douce. Et je peux vous dire qu'elle sent très bon. Que buvez-vous avec un café, un verre de vin?
Tout dépend de mon humeur, en fait. Si je suis en train de me faire une petite part en douce pendant la nuit, ce sera certainement avec un bon verre de whisky.
Et voilà, nous avons là un aperçu de ce qu'on peut trouver sur une table afro-américaine pour Thanksgiving. Mais ça n'est qu'un aperçu. Il y a plus.
Oh oui. Oh oui, bien plus.
Bien plus. Oh. Eh bien, disons que c'est un bon début.
Ah, ça oui. Bonne entrée en matière. Absolument.
Des feuilles de chou cavalier, de la tarte à la patate douce, du pain de mie, du pain de maïs.
Oh oui.
Comment les Américains fêtent-ils la journée de l'action de grâce? Raissa Girondin et Trésor Matondo ont tendu le micro à des résidents de la capitale Washington.
Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving is a big deal. Ça, c'est un bon truc que les gens font. Nous, on va faire une fête le jour, là. On va aller chez un grand frère, là. On va aller faire la fête là-bas. Simplement. Ça va être la fête vraiment. Ouais, la plupart des gens fêtent le jour, hein, les fêtes, yeah. Il y a le turkey, il y a tout, surtout les nourritures locales. Genre, nous, quand même, on fait quand même des trucs qui viennent de chez nous. Le jour de Thanksgiving, par exemple, il y a toutes sortes de nourritures comme le riz, le thon, certains trucs que vraiment les Américains ne connaissent pas. Nous, on fait ça. So, c'est intéressant quand même.
Thanksgiving represents to me its family.
Ce que représente Thanksgiving pour moi, c'est la famille. Chaque année, ma famille se réunit et chacun prépare un plat. On les emmène tous. J'ai un héritage hispanique, donc je fais un mélange de nourriture américaine et mexicaine. C'est juste un moment où on s'assoit et on prend des nouvelles de tout le monde. Ça se produit qu'une fois dans l'année. Un moment où on n'est pas obligé d'acheter un cadeau comme Noël. Ça fait juste du bien d'être avec les membres de sa famille et d'avoir tout cet amour autour de soi. Parce que les avoir autour de moi me prouve à quel point je compte pour eux.
Maintenant, on a l'habitude de célébrer Thanksgiving, même si ces dernières années, je n'ai pas pu le célébrer parce que je travaille de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Notre magasin ouvre à 5 heures du matin et dure toute la journée. Chaque année, nous travaillons comme ça.
J'ai découvert Thanksgiving quand je suis venue dans ce pays, il y a 22 ans à peu près. Ça représente toutes les bénédictions que nous avons reçues ici. Et aussi, c'est un rappel pour penser aux personnes défavorisées, de ne pas les oublier et de les aider. J'ai accepté de le célébrer à l'américaine. On prépare la dinde, de la purée. Et aussi, j'adore la patate douce. Et mon fils aussi d'ailleurs. On fait un festin, on est tous ensemble et on est heureux et en bonne santé. On remercie Dieu et l'Amérique.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnou. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. Dans un instant, les nouvelles du jour avec Henri Francisque. Très bonne soirée à tous.